Te glorifions pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Il est bon de t'aimer, de t'adorer, de te glorifier. Seigneur, tu as tant fait pour nous. Tu nous as délivrés de la mort éternelle, de l'enfer éternel. Tu nous as délivrés des chaînes du malin. Par ta croix, par ton sang précieux, tu as définitivement vaincu l'ennemi dans notre vie. Il n'a plus aucun droit. Plus aucun droit. Ta mort a été parfaite. Et sa défaite, la défaite de l'ennemi a été totale. Alléluia. Alléluia. Totale. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes en toi, Seigneur, par grâce. Nous ne méritons rien, Seigneur, je ne mérite rien. Et nul d'entre nous ici ne mérite quoi que ce soit. C'est par grâce, ton immense grâce, qui a fait de nous tes enfants. Tes bien-aimés, et qui nous donne cette liberté de nous approcher de toi, jusque dans le sanctuaire même, pour louer et bénir le nom de Jésus et glorifier Dieu notre Père. Alléluia. Merci pour ta présence qui nous fait du bien, Seigneur. Alléluia. Instruis-nous maintenant par ta parole. Instruis-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Nourris-nous. nous comptons sur toi. Et je compte sur toi, Seigneur, et non sur ma sagesse humaine, sur mes capacités humaines, non, Seigneur, mais sur le ministère du Saint-Esprit. Donne-moi et donne-nous l'esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, afin que nous recevions ce matin ce que tu as préparé dans tes plans d'amour pour chacun d'entre nous. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur, et je te demande de m'inspirer selon ses besoins, afin que ton peuple soit nourri, béni, encouragé, fortifié, et qu'ainsi nous puissions toujours mieux te servir, mieux t'aimer et mieux t'adorer. Oh, merci, Seigneur. Merci pour tes bras d'amour qui nous entourent ce matin. Tu nous dis, oui, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Tu as du prix à mes yeux. Si tu savais comme je t'aime, laisse-toi aimer. Je te vois au travers du sang de Jésus, mon Fils. Et au travers de ce sang, tu es pur. Tu es saint, tu es libre. Oh, tu as du prix à mes yeux, parce que ce sang qui a coulé a du prix aux yeux du Père. Par son sang, tu as du prix. Oh, merci, Seigneur, de nous donner de réaliser que nous sommes précieux à tes yeux. À cause de Jésus, en Jésus, pour Jésus, et la gloire de Dieu le Père. Ton beau nom, Seigneur. Seigneur est merveilleux. Nous resterions comme cela, nous pourrions rester des heures dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Je voudrais rappeler ce matin les trois ministères de l'Église. L'Église a trois ministères. Que ce soit ici ou dans le monde, trois ministères essentiels de l'Église. Et il nous faut réaliser cela pour que nous puissions accomplir tout le plan de Dieu dans nos vies et dans l'Église. L'Église a trois ministères. Pourquoi l'Église est-elle sur la terre? Si on vous pose la question, pourquoi l'Église? Alors, bien sûr, voilà. Ça, c'est un des ministères. Vous voyez, un des ministères. Annoncer l'Évangile. Ça, c'est déjà une bonne réponse, mais ce n'est pas toute la réponse. La première réponse, c'est adorer Dieu. Premier ministère, adorer le Seigneur. Deuxième ministère, la communion fraternelle, l'édification des chrétiens, la communion. Et le troisième ministère, l'évangélisation des pécheurs, des perdus. Voilà les trois ministères que Dieu a donnés à l'Église. Alors bien sûr, il peut y avoir malheureusement des déséquilibres. Dans certaines églises, avez-vous remarqué, il y a une de ces deux choses, ou deux de ces choses, mais pas les trois. Et là où il n'y a pas les trois, il y a un déséquilibre. Les uns, c'est l'évangélisation à outrance, il le faut, jamais nous n'en le ferons assez. Mais si c'est au dépens de l'adoration du Seigneur et la communion fraternelle, alors, à un moment donné, notre évangélisation ne portera plus de fruits. Et dans d'autres églises, il y a la communion fraternelle, on se sent bien, on est bien entre nous, il y a un véritable amour fraternel. Mais, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'adoration sincère, réelle vers Dieu, et il n'y a pas d'évangélisation. Alors là aussi, même s'il y a de l'amour fraternel entre nous, c'est une église qui ne prospérera pas. Et il y en a d'autres qui ont un autre déséquilibre, c'est seulement la louange et l'adoration. Vous avez entendu ce que le pasteur Judson Conroe l'a dit? On peut louer l'adoration et adorer la louange. la louange et l'adoration devient un but en soi. Alors là, c'est très dangereux. La louange et l'adoration ne doivent jamais devenir un but en soi. C'est un moyen pour atteindre un but, mais jamais le but en soi. Alors l'adoration, la louange, c'est un ministère extraordinaire, mais s'il n'y a que cela dans une église, cette église tournera en rond. Alors, il faut donc ces trois ministères dans une église. Premièrement, l'adoration. On peut vous donner du papier si vous en voulez. Premièrement, l'adoration. Deuxièmement, la communion fraternelle. Et troisièmement, l'évangélisation. Il nous faut toujours bien garder ces trois buts devant nos yeux. Et il faut constamment que ces trois choses soient dans notre vie d'église et dans n'importe quelle vie d'église. Si ces trois ministères sont là, la bénédiction de Dieu sera certainement là. Amen. Certainement, sans aucune distinction. Alors, on peut prendre comme exemple, comme texte biblique, dans les Actes, acte 2. Acte 2. Avez-vous remarqué le jour de la Pentecôte? Il y a là quelque chose de très beau. La Pentecôte est un peu comme l'exemple pour nous. Bien souvent, quand on parle de la Pentecôte, on pense à Pierre qui s'est levé et qui a prêché à ces milliers de personnes et où 3000 se sont convertis. Certains mettent l'accent là-dessus, sur le côté évangélisation, le jour de la Pentecôte. C'est bien, il y a cela. Mais est-ce qu'ils ont commencé par cela? Non. Vous allez le voir. Leur premier ministère n'a pas été l'évangélisation. L'évangélisation, c'est comme un débordement, voyez-vous. C'est comme un débordement d'autre chose, de deux autres ministères. Du ministère de l'adoration et du ministère de la communion fraternelle. Quand ces deux choses sont faites, c'est comme un débordement. Après, on déborde sur les pécheurs. Amen. Alors, regardez là, pour vous montrer que les premiers apôtres, avec les premiers chrétiens à la Pentecôte, ont eu d'abord ce premier ministère qui est l'adoration. Acte 2, acte 2, et au verset 11, il est dit ceci, vous voyez la foule qui était là, lorsqu'ils parlaient en langue, ils parlaient donc des langues très connues ici, et au verset 11, il est dit, Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Est-ce qu'ils étaient en train de prêcher là? Pas du tout. Certains même disent que le jour de la Pentecôte, ils ont parlé d'autres langues, ils ont prêché en d'autres langues. C'est faux! Quand ils parlaient en d'autres langues, la langue de toutes ces personnes-là, de toutes ces races-là, ce n'était pas une prédication. Pierre a fait la prédication après. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ne les entendons-nous pas dans nos langues parler des merveilles de Dieu? Qu'est-ce que cela? C'est l'adoration. Voyez-vous, autrement dit, le premier ministère, voyez-vous, quand le Saint-Esprit est descendu en puissance sur les apôtres, sur les 120 qui étaient là, première réaction. Premier ministère que le Saint-Esprit leur a donné dans ces autres langues, c'était d'adorer le Seigneur. Alléluia. Les uns dans une langue, les autres dans une autre, mais ils proclamaient les merveilles de Dieu. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous révèle la grandeur de Dieu. Alléluia. Quand nous n'avons plus la vision de la grandeur de Dieu au milieu de nous, c'est que le Saint-Esprit n'est plus agissant au milieu de nous. Le Saint-Esprit est peut-être là, mais il n'est plus en action. Quand le Saint-Esprit est en action, alors nous entendons les merveilles de Dieu. Pas les merveilles de l'homme. Ça, c'est une preuve que le Saint-Esprit n'est pas là aussi. On entend beaucoup parler des merveilles de l'homme. Oh, celui-ci est intelligent, il a tel diplôme, il a tel ceci, tel cela. Dans les églises, on élève l'homme, on idolâtre l'homme. C'est les merveilles de l'homme que l'on entend maintenant.
Ça, c'est une preuve que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Il est là, mais étouffé. Il ne peut pas accomplir son ministère. Le Saint-Esprit n'est jamais là pour chanter les merveilles de l'homme. Mais dans certaines églises, on chante les merveilles du diable. Ah oui? Parce que c'est toujours le diable qui est dans leur bouche. Ah, le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela, je suis encore lié par tel mauvais esprit. Le diable est ceci, le diable est ça. Ils sont toujours encore en train de se battre avec le diable. Comme si l'ennemi était encore en eux. Quand le Saint-Esprit est là, nous réalisons une chose. C'est que l'ennemi n'est plus au milieu de nous, en nous. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et si l'ennemi agit, c'est toujours de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Et quand le Saint-Esprit agit puissamment au milieu de nous, nous ne vantons pas ce que l'ennemi fait. Il y en a qui voient que ce que l'ennemi fait. Mais ils ne voient pas la grandeur et les merveilles de Dieu. Ça, c'est un signe que la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Quand Jésus est toujours magnifié, glorifié, exalté, Dieu est grand, alléluia. Nous avons un grand Dieu et un petit diable vaincu, alléluia. Amen. Nous ne devons jamais l'oublier cela. L'ennemi est vaincu. L'ennemi est défait. Il n'a aucune part en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, nous détruisons l'œuvre de la croix. La croix nous a totalement délivrés. Croyons-le, mes amis. Amen. Totalement délivrés. Et s'il y a un combat avec l'ennemi, ce n'est jamais avec l'ennemi à l'intérieur. C'est toujours avec l'ennemi qui est à l'extérieur. Amen. Toujours. Toujours. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors il chantait les merveilles de Dieu. Voyez-vous, et la foule était là en train d'entendre tout ce qu'on disait au sujet de Dieu. Mes amis, si nous passons notre temps à dire les merveilles de Dieu, combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux, alors les gens viendraient au milieu de nous, amen, et voudraient entendre parler d'un tel Dieu, alléluia. Non pas combien le diable est puissant et rusé, non pas combien l'homme est sage, intelligent, et il peut faire de grandes choses. Tout cela attriste le Saint-Esprit et chasse les gens. Mais ce qui attire les gens, c'est quand nous glorifions notre Dieu. Notre Dieu est grand, très grand, digne de louange. Quand nous lisons les psaumes, nous voyons la grandeur et la magnificence de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'une transfusion divine qui nous communique la grandeur, la majesté, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cela. Besoin. Besoin. Si nous n'avons pas une vision grande, majestueuse de Dieu, alors quelqu'un d'autre doit grandir. Ou c'est nous qui grandissons. Ou c'est nous qui paraissons grands. Ou nous faisons paraître les autres grands. Ou nous faisons paraître le diable grand. Mais si Dieu seul est grand, majestueux, glorieux, tout le reste prendra sa juste mesure. Amen. Tout le reste sera sa juste mesure. Il y aura une vraie, une bonne perspective de tout le reste. Et ainsi Dieu seul sera glorifié. Mais pensez, mes amis, tous ensemble, ils étaient là, et les merveilles de Dieu, la foule qui était là, je ne sais pas ce qu'ils ont dû penser, mais ils ont dû dire, mais c'est extraordinaire, un tel esprit. On pense parfois que l'adoration peut choquer les gens, mais je vous assure, mes amis, c'est une erreur. L'adoration peut amener des âmes au Seigneur. Quand l'adoration est faite sincèrement, on peut attirer des âmes au Seigneur. Si nous le faisons sincèrement, c'est le seul endroit et moment où les païens peuvent voir combien nous aimons le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Combien nous l'adorons. Les gens, les païens, les incrédules sont impressionnés par des chrétiens qui adorent leur Dieu de tout leur cœur. Ce qui ne les impressionne pas, bien sûr, c'est cette louange du bout des lèvres que l'on voit bien souvent. Alors bien naturellement, quand les inconvertis voient une telle louange, ils disent, si c'est comme ça qu'ils aiment leur Dieu, celui-là, eh bien, qu'ils l'aiment eux-mêmes, parce qu'ils ne me font en tout cas pas envie de l'aimer aussi. Mais quand ils verront qu'on est là, un Dieu, mon Dieu est merveilleux, mon Sauveur est extraordinaire, quand il y aura une telle conviction, une telle vision, les gens se diront, mais je le veux celui-ci, il y a quelque chose là, que je ne comprends pas, mais qui est réel, qui est authentique, alléluia. Nous pouvons amener beaucoup d'âmes au Seigneur simplement par l'adoration, parce qu'ils verront combien nous aimons notre Dieu. Mais nous ne pouvons pas attirer au Seigneur beaucoup de gens s'ils ne voient pas d'abord en nous cet amour réel et sincère pour notre Sauveur, n'est-ce pas vrai? Alléluia. C'est comme si on parlait d'amour sans avoir d'amour dans le cœur. C'est comme si on parlait de joie sans avoir de la joie dans le cœur. C'est comme si on parlait de paix sans avoir la paix dans son cœur. C'est comme si on parlait du Sauveur sans connaître le Sauveur soi-même, n'est-ce pas vrai? Quelle tragédie! Il y en a beaucoup qui parlent du Sauveur sans le connaître personnellement. Ça sonne faux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche, ça sonne faux. Mais quand ça vient du fond du cœur, mes amis, même les gens peuvent être choqués. Ça, c'est un bon électrochoc, mes amis. Il leur faut un peu de ces électrochocs. Quand ça vient sincèrement, quand c'est fait sincèrement, et sous l'onction du Saint-Esprit, il faut laisser tout cela entre les mains du Seigneur. Alléluia! Ils verront au moins. Il y a une chose dont ils ne pourront pas nous accuser, c'est que nous aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Alléluia! Gloire à Dieu! L'adoration. Ne les entendons-nous pas parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia! Ayons cet esprit d'adoration, mes amis. Vous l'avez vu, nous passons du temps à adorer le Seigneur. À chaque culte, nous le faisons ainsi. Il y a l'adoration, il y a plusieurs bénédictions. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais en tout cas plusieurs que je vais vous donner maintenant rapidement. L'adoration attire la présence de Dieu. Il n'y a rien de tel pour attirer la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu au ciel, il y a constamment de la louange. Amen. Avez-vous remarqué? La louange ne se tait jamais dans la présence de Dieu. Jamais. Continuellement. D'ailleurs, personne ne peut rester dans la présence de Dieu sans le louer. Au ciel, personne. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui vient. Continuellement. Il y a cet esprit de louange autour du trône de Dieu. Cet esprit de louange. Et celui qui ne veut pas louer Dieu ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on loue le Seigneur, alors la présence de Dieu se manifeste. Et Dieu vient au milieu de nous. Parce qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Amen. Psaume 22, verset 4. Il habite au milieu des louanges de son peuple. Et là, je voudrais bien insister sur ce point important. Bien souvent, nous nous sentons démunis ou privés de la présence de Dieu. Et nous nous demandons bien souvent, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Alors, on se culpabilise, on va chercher au fond de notre cœur certains péchés, je ne sais d'où. On veut aller les trouver pour soi-disant trouver le problème. Alors que notre vie est en règle avec Dieu, s'il n'y a pas de péché conscient dans notre vie, et que nous marchons dans la lumière, devant le Seigneur, son sang nous purifie. Il n'y a plus rien qui nous condamne devant le Seigneur. Et si nous sommes encore privés de sa présence, alors il y a une chose qu'il faut faire, qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'adorer, le louer. Il n'y a rien de tel pour attirer la présence de Dieu. Amen. Amen. Ceci est très important. Depuis le jour où nous avons découvert cette clé nous-mêmes, alors je vous assure, c'est une clé, c'est une puissance. Tu n'as pas à être privé de la présence de Dieu. S'il n'y a pas de péché conscient dans ta vie, si tu as confessé ton péché, si tu as demandé pardon, le sang t'a purifié. C'est tout. Et loue le Seigneur. Et tu verras sa présence manifestée. Alléluia. À la maison, à la cuisine, au bureau, là où tu es. Là où tu es. Là où il y a cet esprit de louange, il y a toujours la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Et une deuxième bénédiction. Quand on adore, la présence de Dieu vient. Si Dieu vient, il y en a un autre qui doit déguerpir. Vous êtes d'accord avec moi? Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Quand l'Esprit de Dieu vient, l'ennemi doit fuir. Autrement dit, lorsque nous adorons le Seigneur, c'est la présence de Dieu et de ses anges qui viennent au milieu de nous. Parce que le ministère des anges, c'est de constamment adorer le Seigneur. Ils aiment adorer le Seigneur. Et partout où il y a un chrétien, une église qui adore Dieu de tout son cœur, les anges viennent s'y joindre pour chanter les louanges de notre Dieu. Amen. C'est pourquoi bien souvent, nous sentons une présence, quelque chose qui est là. Mais bien souvent, il y a des anges, nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons pas. Alléluia. Et lorsque les anges sont là, mes amis, nous n'avons rien à craindre des ruses, des attaques, des accusations de l'ennemi. L'ennemi est paralysé, lié, là où la présence de Dieu se trouve. Alléluia. Il n'y a plus rien à craindre. Je vous assure, c'est l'ennemi qui craint. C'est l'ennemi qui commence à faire une dépression. Ce n'est pas à toi de faire ta dépression. Alléluia. Il y a des chrétiens qui font des dépressions, mais si vous commencez à louer le Seigneur, vous allez donner faire une dépression au diable. Alléluia. C'est le diable qui va commencer à faire sa dépression. Parce que la louange terrorise le diable. Écoutez-moi bien. La louange terrorise le diable. Le diable est allergique à la louange. Vous ne saviez pas qu'il avait une allergie, le diable ? Il a une allergie. Tu dis « Alléluia !» Il ne sait plus où il en est. Il commence à tousser. Il ne sait plus où il en est. Il est allergique. Il ne supporte pas. Parce que lui, il veut toujours la louange à lui, n'est-ce pas ? Il veut que toujours tout soit orienté vers lui. Quand ce n'est pas orienté vers lui, il n'est pas content. La louange attire la présence de Dieu. Cette présence met le diable en fuite. La louange terrorise le diable. Alléluia. Tu n'as pas été terrorisé, toi. C'est le diable qui doit être terrorisé. Amen. Alléluia. Une autre bénédiction de la louange, vous l'avez remarqué aussi, c'est cette joie. Quand on adore le Seigneur, il y a comme un fleuve, un puits qui s'ouvre en nous, qui se débouche. Il y a une joie qui commence à se manifester. Amen. C'est pour ça que ceux qui adorent Dieu, ce sont vraiment des gens joyeux. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Et Pierre, la Pentecôte, disait, il y a beaucoup de joie dans ta présence. La présence de Dieu apporte la joie. C'est pourquoi, mes amis, s'il n'y a pas de joie dans une église ou au milieu de nous, c'est une preuve que le Saint-Esprit n'est pas là. Ça, c'est aussi un test. C'est un test. Quand il n'y a pas de joie, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là, ou on ne le laisse pas agir. Mais quand le peuple de Dieu loue, adore, il y a une exubérance, une joie, quelque chose de céleste qui se manifeste. Amen. Nous pouvons commencer tristes, nous pouvons être mélancoliques, mais lorsque nous nous forçons à adorer, à louer le Seigneur, cette joie, cette tristesse, cette mélancolie disparaît. Amen. Et elle est changée par cette huile de joie que Dieu nous donne lorsque nous l'adorons. Alléluia. Il y a de grandes la joie. C'est quelle bénédiction. Dans l'adoration, il y a aussi la révélation. Dieu nous parle aussi. Il n'y a rien de tel pour être sensible à la voix de Dieu lorsque nous adorons Dieu. Tout se fait silence. L'Esprit de Dieu est là. Vos yeux ne sont plus fixés sur vous-même, autour de vous, sur l'ennemi ou qui que ce soit. Vos yeux sont fixés sur le Seigneur. Et à ce moment-là, vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu. La révélation est facile à ce moment-là. Beaucoup plus facile dans la présence de Dieu. Vous dites, mais moi, je n'entends pas Dieu me parler. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore. Persévère dans l'adoration. Loue le Seigneur. Et tu vas voir que tu vas entrer dans une nouvelle dimension de la communion avec Dieu. Et dans cette communion, Dieu te parlera. Oui, à toi. Toi. Toi, tu dis, moi, il ne me parle jamais. Il te parlera aussi. Tu es son enfant. Il veut te parler. Il désire te parler. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et là où il y a l'adoration, il y a aussi la transformation. L'épître Paul dit dans les Corinthiens, lorsque nous contemplons le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 18 ou 19, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Voyez-vous, l'adoration opère cette transformation en nous. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais dans l'adoration, il y a cette transformation qui s'opère. Gloire à Dieu. C'est inconscient. C'est comme Moïse quand il était dans la présence de Dieu et qu'il est allé voir les Israéliens. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué, les Israéliens? Son visage rayonnait. Lui, il ne le savait pas. Mais pourquoi est-ce qu'il rayonnait? Parce qu'il avait été tout simplement dans la présence de Dieu. Mes amis, lorsque nous passons du temps à louer et adorer Dieu, inconsciemment, nous sommes transformés à l'image du Seigneur. Amen. Il y a un rayonnement qui est là. Mes amis, ceci est important. Et nous sommes transformés. La transformation n'est pas superficielle, elle est profonde. Mais un homme, une femme, un chrétien qui n'adore pas son Dieu aura beaucoup de peine à changer, à être transformé. C'est dans la présence de Dieu qu'on est transformé. C'est quand on adore que cette transformation, nous le contemplons et nous sommes transformés de gloire en gloire, voyez-vous. C'est de mieux en mieux, il y a une purification constante qui se fait, un épanouissement permanent de notre être à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre nous désespérons en disant, mais je ne change pas beaucoup. Vous vous tâtez trop. C'est pas comme ça que vous allez changer. Ah, aujourd'hui, c'est pas comme ça que tu vas changer. Adore le Seigneur. Aie les regards sur lui. Obéis au Seigneur. Fais ce qu'il te demande. Et inconsciemment, c'est les autres qui vont dire, mais dis donc, mais t'as changé. Ah, je te reconnais plus. Ah, c'est que... Et vous allez remarquer que c'est depuis que vous passez du temps dans la présence de Dieu. Et là, vous allez vous rappeler, vous allez dire, ah, c'est le Seigneur. C'est depuis que je passe plus de temps avec lui que sa présence me transforme. Mes amis, faisons-le plus souvent, plus souvent. Et certains problèmes que nous pouvons avoir disparaîtront dans la présence de Dieu. Amen. Louons, bénissons le Seigneur. Alléluia. Le deuxième ministère maintenant. Dans les actes, après, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 12, « Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Ils sont pleins de quoi? De vin doux. De vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Autrement dit, vous savez, quand quelqu'un a bu, vous avez remarqué, il commence à aimer tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui sont méchants. Certains, ils sont plus méchants. Mais en général, quand même, quand quelqu'un a bu, il est là, il aime tout le monde. Vous l'avez remarqué? Et là, c'est ce qui s'est passé. Ces 120 qui étaient là, ils sont pleins de vin doux, ceux-là. Mais autrement dit, ils remarquaient un amour entre eux. Ils avaient une affection, un amour extraordinaire. Vous voyez, ils étaient en train d'accomplir le deuxième ministère. Ils ont adoré Dieu et maintenant, ils manifestaient. Voyez-vous, l'amour fraternel est un débordement de notre adoration pour le Seigneur. Plus vous adorez le Seigneur, plus nous nous aimerons les uns les autres. Amen. Parce que c'est la source, l'adoration. Dans l'adoration, nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Pour nous-mêmes, pour nos frères et pour le monde aussi. C'est la source. Et là, ils étaient dans l'adoration. Et dans cette adoration, ils ont aimé le Seigneur, glorifié le Seigneur, et Dieu en retour leur donnait cet amour pour leurs frères et sœurs. Si bien qu'ils étaient dans cette communion fraternelle, ne sont-ils pas pleins de vin doux? Il y avait cette affection fraternelle entre eux, et cela c'était un témoignage puissant. Certains se sont moqués d'eux, bien sûr, mais tout le monde ne s'est pas moqué. 3 000 se sont quand même convertis, vous êtes d'accord avec moi? 3 000 ont dû dire, eh ben moi je voudrais boire aussi de ce vin un peu. De ce vin-là, de ce vin nouveau. Et 3 000 sont entrés dans cette bénédiction. Alléluia. Laissez-moi dire une chose, mes chers amis. L'Église n'est pas bâtie sur des réunions. L'Église est bâtie sur la communion fraternelle. C'est là une grande erreur dans beaucoup d'Églises. Les chrétiens pensent que quand ils viennent à la réunion et ils s'en vont, c'est terminé, ils ont fait leur devoir. L'Église est bâtie sur des réunions. On vient, on est fidèle. On s'occupe ni de Pierre ni de Paul, hein, ça, surtout pas. On vient, on s'assoit, on chante, on prie et tout ça. C'est le frère à gauche, la sœur à droite, zéro. On s'en occupe pas. Et attention, et on est fidèle. On est venu, on est mis à l'Église. On est fidèle. Et il y a même le pasteur bien souvent qui encourage cela en disant voilà, il est fidèle, il est fidèle. C'est le meilleur chrétien de l'Église. Il fait la tête à tout le monde, mais parce qu'il vient à l'Église, c'est le meilleur. Regardez voir, regardez la déformation. Ah, c'est le meilleur. Il est toujours là. Mais il n'est jamais avec les autres. Il est toujours là. C'est vrai, c'est bien. La fidélité, c'est bien. Mais pas aux dépens d'autre chose. Pas aux dépens de la communion fraternelle. Et l'Église, mes amis, n'est pas bâtie sur notre fréquentation des réunions. Nous pouvons fréquenter des réunions et ne jamais avoir la communion fraternelle entre nous. Si nous avons des réunions qui ne fortifient pas notre communion fraternelle, alors nous nous réunissons en vain, mes amis. Nous nous réunissons en vain. Nous nous réunissons pour devenir pire et non pour devenir meilleur. Le but de nos réunions est de fortifier notre communion fraternelle. Amen. C'est vital. Si au fil des mois, des années, notre communion entre nous ne grandit pas, alors malheur à nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous dites, je vais à l'église, je prie, je fais... Non ! Ce n'est pas suffisant. Dieu demande quelque chose de plus que toi. Cette communion est importante. Je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ceci est tellement vital, tellement... Nous devons veiller à ça. Je sais que c'est tout un apprentissage, mes amis. C'est tout un apprentissage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pourquoi, dans une église, forcément, il y a des accros avec l'un et avec l'autre. D'ailleurs, quelqu'un qui vient me dire, moi, dans mon église, il n'y a jamais d'accro, je dirais, menteur. Tu es un menteur. Ça, c'est, il ne serait pas réaliste et ce serait un menteur, n'est-ce pas vrai? Il y aura des accros. Mais le point important, c'est que si nous avons la vision de la communion, nous dirons, ben, je ne me laisserai pas arrêter. Il y a eu des accros, mais il faut mettre ça en ordre. Alléluia. Un jour, c'est vous qui devez demander pardon, et un jour, c'est l'autre qui doit demander pardon. Un jour, c'est moi qui dois demander pardon, et un jour, c'est l'autre qui doit me demander pardon. Un jour, c'est le mari qui doit demander pardon, un autre jour, c'est l'épouse qui doit demander pardon. Un jour, c'est les parents qui demandent pardon aux enfants, un jour, c'est les enfants qui doivent demander pardon. On aura tous à le faire pour maintenir cette communion. C'est indispensable. Jamais une personne ne doit toujours demander pardon elle-même. Chacun, Dieu nous mettra à l'épreuve pour que chacun d'entre nous, nous ayons à faire notre part. Amen. Et c'est comme cela que nous veillerons, nous fortifierons cette communion dans nos familles et dans l'Église. C'est important, mes amis. C'est important. C'est pourquoi dès qu'il y a la moindre tension entre l'un ou entre l'autre, que nous ayons toujours l'honnêteté de nous voir en privé, d'abord, et dire, voilà, il y a eu quelque chose. Et finissons par la prière. Et en se pardonnant mutuellement, en se relevant, en s'embrassant, en disant, maintenant, c'est terminé. Amen. Ça, c'est la victoire. Une église qui fait ça, c'est une église victorieuse. Un couple qui fait ça, c'est un couple victorieux. Amen. Ne l'oublions pas, la communion est importante. Parce que le diable, il peut aussi nous donner du travail pour nous empêcher d'avoir la communion. Il y en a tant qui ont tellement à faire dans les églises qu'ils n'ont plus le temps d'avoir la communion entre eux. Et même, ils se font la tête. Et pourtant, ils travaillent pour le Seigneur. Voyez-vous la contradiction? Il est bon de travailler pour le Seigneur, mais il faut que ça se fasse dans un bon esprit. Amen. La communion, c'est vital, mes amis. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Et plus on sera ensemble, plus vous verrez mes imperfections. Et plus on sera ensemble, plus je verrai aussi vos imperfections. Ça, il faut être réaliste, mes amis. Amen. Il ne faut pas dire, ah, je suis déçu de lui. Il est si gentil, mais voilà, il y a ça. Mais quoi? Sois réaliste. On n'est pas au ciel. Il n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Elle n'est pas parfaite. S'il y a quelque chose, va, règle le problème. Et ainsi, la communion se manifestera. Toujours plus grande. Amen. Pourquoi la communion? Pour comment réaliser cette communion? En réalisant que nous avons besoin les uns des autres. Voilà, ça c'est un point important. Pourquoi bien souvent nous ne faisons pas nos efforts pour que cette communion soit plus grande? Parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de l'autre. On pense qu'on peut se débrouiller soi-même. Et parce qu'on pense se débrouiller soi-même, alors naturellement on ne fait pas d'efforts pour communier avec l'autre. Mais l'Église est un corps. Et nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes responsables les uns des autres. Quelqu'un qui réalise qu'il a besoin de l'autre et qui se sent responsable de l'un ou de l'autre aura toujours une bonne communion avec son frère, avec sa sœur. Amen. Ou avec son mari ou avec sa femme. Réalisons donc cette importance que nous avons besoin. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi et mutuellement vous avez besoin les uns des autres. Si nous réalisons cela, dès qu'il y a quelque chose, tout de suite nous intervenons. Nous mettons la chose en règle et voilà, la communion grandit et Dieu est glorifié. Combien le Seigneur est glorifié lorsqu'il voit ses enfants toujours, toujours revenir à lui, se demander pardon, purifier ce qui n'est pas sa gloire et marcher dans l'amour et dans la vérité. Amen. Ça c'est merveilleux, mes amis. C'est un but important. C'est le deuxième ministère. Car si... il n'y a pas de communion réelle entre nous, mes amis, les inconvertis qui viennent, est-ce qu'ils vont s'en apercevoir? Hein, je vous assure, ils vont tout de suite le voir, ce qui ne va pas. Tout de suite. Nous, bien souvent, on ne s'en rend plus compte. Notre cœur s'est endurci. On a pris tellement de mauvaises habitudes qu'on ne voit plus rien. Et c'est l'inconverti qui vient de dehors qui voit tout de suite ce qui ne va pas. Et nous, on se targue d'avoir le discernement, alors qu'on ne voit rien du tout, on est aveugle. On fait la tête à l'un et à l'autre, et on dit qu'on a du discernement. C'est un aveuglement. On ne s'en rend plus compte. Et celui qui vient de l'extérieur, il voit tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça ici? On va se battre ici là-dedans. Ils viennent juste de finir un match de boxe. Alors ils nous diront au revoir. On les verra une fois, deux fois. Mais après ils diront au revoir. J'ai autre chose à faire. Mais s'il y a cette communion, cela ne veut pas dire la perfection. Jamais la perfection sera en haut. Mais si cette communion est sincère, cet amour est sincère entre nous, mes amis, les gens seront touchés parce que cela n'existe pas dans le monde. Amen. Cette communion sincère, cette fraternité sincère, voilà, qui se manifeste, tout cela, c'est inconnu dans le monde. Inconnu. Et le monde désire voir cela. Et s'il le voit au milieu de nous, Dieu sera glorifié. Amen. C'est pourquoi le diable s'attaque à la communion fraternelle, ne l'oubliez pas. Il s'attaque. Il veut toujours qu'on se dresse l'un contre l'autre pour des petites choses, de rien du tout. Vous réfléchissez après, vous dites, mais pour cette picadille, je fais des histoires. Et on voit par là que c'est le diable qui fait tout pour détruire la confiance mutuelle, la communion fraternelle. Il y a un ennemi qui ne veut pas tout cela, car il sait que s'il arrive à diviser ou même à distancer l'un de l'autre, il a gagné, il a gagné, il a gagné. C'est pourquoi nous devons veiller, c'est un but, la communion fraternelle. Ils étaient ivres, ils manifestaient un tel amour entre eux que les autres étaient surpris. Quel témoignage. Et 3 000 ont dit, on va boire de ce vin aussi, nous. Les uns se moquent, mais nous, on va boire de ce vin. Nous avons besoin de ce vin, de la communion fraternelle, de cet amour sincère. Alléluia! Et vous pouvez en boire quelques doses à la maison, n'ayez pas peur. Buvez un petit peu. Venez ici en étant un peu ivre de la communion fraternelle. Alléluia! Ça, c'est communicatif aussi, c'est contagieux. Amen. Ayez cette contagion, ça c'est une bonne contagion. Et alors troisièmement, le troisième but, troisième ministère de l'Église, c'est l'évangélisation. Après, on le voit, Pierre s'est levé. Et il a commencé à dire, se présentant avec les 11, il éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs et tout ceci. Donc il a commencé à prêcher. Leur troisième ministère, il accomplit cela. Troisième ministère. Et alors 3 000 âmes se convertissent. 3 000. Devant cette action du Saint-Esprit, devant cet amour fraternel, et devant cet amour pour les âmes aussi. Alors les âmes ont été touchées. L'évangélisation, ça c'est important aussi. Chacun d'entre nous, nous fassions notre part pour amener des âmes au Seigneur. Chacun, là où nous sommes, ne perdons jamais ce feu, ce zèle du témoignage. Jamais, jamais, jamais. Ceci est vital, vital. Mais si nous sommes dans cet esprit de louange et d'adoration, si nous avons cet esprit de communion fraternelle, alors l'évangélisation sera comme un débordement. C'est quelque chose qui va déborder sur les autres, tout naturellement. Et ainsi, beaucoup se convertiront. Amen. Mes amis, c'est là le témoignage que les premiers apôtres ont donné. Et c'est là notre témoignage à nous. Le Seigneur a fait de nous des pêcheurs d'hommes. Et non pas des gardiens d'aquarium. L'Église n'est pas une gardienne d'aquarium pour garder les poissons déjà qui sont... Il faut aller à la pêche. Certaines églises sont spécialistes pour garder les poissons, mais pour aller les pêcher, non. Nous ne sommes pas des gardiens d'aquarium, mais nous sommes des pêcheurs d'hommes. Amen. Malheur à moi, disait Paul, si je n'annonce l'Évangile, malheur à moi. Que le Seigneur allume ce feu en nous. Vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, par un traité, par une parole, par un sourire, il y a tant de façons. Vous dites, mais moi, je ne sais pas parler. Il n'y a pas besoin de savoir parler. Si tu sais aimer. Alléluia. Si tu sais aimer, si tu sais adorer, si tu sais aimer. Si tu aimes le païen, l'inconverti, Dieu te donnera des âmes, même si tu ne sais pas parler. Amen. Si tu sais aimer. Si dans ton regard il y a cet amour divin, les âmes seront touchées. Les uns se moqueront de toi, bien sûr, mais il y en a d'autres que Dieu veut te donner. Ainsi, ne nous décourageons pas, mes amis. Ne nous décourageons pas. Ces trois ministères sont là. Il faut que les trois soient toujours en action dans l'Église et dans notre vie. Toujours. Pas l'un aux dépens de l'autre, mais les trois ensemble. Toujours là. Et s'ils sont là, alors Dieu nous bénira puissamment. Amen. Alléluia. Le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons nous courber quelques instants dans la prière maintenant. Seigneur Jésus, nous voulons te dire notre reconnaissance, notre amour pour ta fidélité pour nous, pour ton amour, l'amour de la croix. Seigneur, combien ton amour est grand. Tu nous as aimés alors que nous étions loin de toi, ennemis de Dieu. C'est à cause de cela que tu as touché nos cœurs. Nous étions loin de toi. Nous avions le dos tourné à ton amour. Et tu as donné ta vie pour nous. Et tu veux que maintenant, Seigneur, nous puissions aussi nous donner à toi, à nos frères et sœurs, et aussi à tous ceux qui nous entourent, pour les attirer à tes pieds. Car le jugement arrive. Le temps arrive, le temps de la grâce est bientôt terminé. Nous voulons, pendant qu'il fait jour, annoncer ta glorieuse parole, faire toute ta volonté dans nos vies et accomplir ces trois ministères que tu demandes à l'Église et à chaque chrétien. Garde-nous fidèles, Seigneur, à ce que tu nous as donné afin que nous puissions t'apporter des âmes. Oh, que nous puissions t'apporter des âmes, Seigneur. Personnellement et en tant qu'Église aussi. Seigneur, tu veux nous donner de sauver des milliers d'âmes dans le monde entier. Tu as commencé à le faire et tu le feras encore, Seigneur. Oh, nous te demandons de nous utiliser pour t'amener des multitudes et des multitudes au pied de la croix. Jésus, c'est pourquoi garde-nous fidèles dans ces trois ministères. Cette adoration de ta personne merveilleuse, que nous soyons toujours ravis dans ta présence, que nous soyons toujours émerveillés par ta personne, que jamais nous ne nous rassemblions par tradition ou par routine, et que nous ne t'adorions du bout des lèvres, mais que toujours un feu nouveau s'allume en nous. Et que chaque fois qu'on se rencontre, Seigneur, nos cœurs débordent d'adoration dans ta présence. Seigneur, nous voulons t'aimer, te glorifier, te bénir. Et tu veux toujours plus renouveler notre affection fraternelle. Seigneur, tu veux toujours purifier tout ce qui doit être purifié. Resserrer toujours plus nos liens. Et veillez à ce que, Seigneur, cette communion grandisse toujours plus et soit intacte entre nous, une communion sincère. Seigneur, merci. Tu nous donneras la grâce de nous humilier lorsqu'il faut nous humilier, lorsque nous avons fait une faute. Et c'est ainsi que ton cœur de père sera heureux, voyant tes enfants marcher dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie. Nous voici, Seigneur, et alors tu nous enverras dans ce monde. Là où nous sommes, tu nous enverras, et nous serons des reflets de ta personne, de ta patience, de ta fidélité, de ta grâce, de ta paix, de ta joie. Ô, de tout notre cœur, nous te donnons toute la gloire. Ô, merci, prends nos vies et garde-nous fidèles à ces trois ministères que tu as donnés à l'Église. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté, dès maintenant et à jamais. Amen.